Bonjour et bienvenue parmi les auteurs morts. Notre mission du dimanche, kidnapper les chefs-d'œuvre de la littérature, les ligoter bien serrés et leur tordre le cou. Vous écoutez Livre et Châtiment, la seule émission qui ressemble à une scène de crime, avec amour et sans pitié. Ma complice de sang a le regard doux et l'éthique de Landru. Bonjour Constance.
Bonjour Clara Dupont-Monod.
Je crois que Landru fait partie de votre famille.
Mais oui, en fait, c'est pas ma famille directe, hein, évidemment.
Non.
Mais vous voulez que je raconte l'histoire tout de suite ?
Un petit peu quand même.
J'avais un arrière-grand-père qui était médecin légiste et il était sur l'affaire Landru.
Voilà. Ça vous pose quelqu'un quand même. Avec nous également, celle qui confond Francis Holmes et Francis Cabrel, et ça vous donne une idée de sa morale. Bonjour Liliane Roudière.
Bonjour Clara.
Et avec nous enfin, celle qui a emprunté à Jacques Mesrine son sens de la modération. Bonjour Élodie Emery.
Bonjour Clara Dupont-Monod.
Le classique littéraire que nous allons séquestrer aujourd'hui, vous allez devoir le deviner à la façon de questions pour un champion. Oui, parce que moi j'aurais bien menotté Julien Lepers dans une chambre obscure. Question de fantasme intime. Attention, êtes-vous prête ? On y va ! Je suis publiée en 1867. Les critiques me qualifièrent alors de flaque de boue et de sang, de littérature putride, ça fait toujours plaisir. Alors, ok, je suis remplie d'ombre. Aucune de mes phrases ne mentionne une couleur. Les lieux décrits sont sans lumière. Je cite « La nuit habite pendant le jour ».
Le guide des caveaux de France.
Non, non. Je déroule mon action dans une mercerie à Paris. Dedans, il y a la mercière, son fils et sa belle-fille. C'est elle, mon héroïne, la belle-fille. Elle s'appelle Thérèse. Elle est brune, comme Emma Bovary. Elle est nerveuse, féline. Et se fout, mais alors complètement, de la mercerie.
Je sais, la pelote de Lady Chatterley.
Alors, non, ce livre n'existe pas, Liliane, mais merci. Thérèse tombe amoureuse du meilleur ami de son mari, ils deviennent amants. Ensemble, ils décident de noyer le mari. Et ils le font. Mauvaise idée. Le remords s'installe dans leur vie. Ils volent leur sommeil, leur sexualité, leur quotidien, leur couple, leur crime. Les empêchent de vivre.
La Bible !
Non plus. Grâce à moi, s'amorce pour la première fois le mouvement naturaliste. L'écrivain raconte un personnage comme un médecin raconterait un patient. L'influence du milieu social, de l'hérédité, prédominance de l'organique. Il ne s'agit plus de faire beau, mais de faire vrai. Bon, je suis... Oh, Thérèse Raquin d'Émile Zola, fastoche.
Livre et châtiment. Clara Dupont-Monod sur France Inter.
Bon, alors je reconnais, cette introduction était un petit peu longue, comme une journée de Natacha Campouche. Donc, rien ne vaut une sommité comme Alain Pagès. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous n'êtes pas criminologue, mais vous êtes professeur émérite de littérature à la Sorbonne, également directeur du centre Zola. En préparant cette émission, figurez-vous que j'ai d'abord cru que l'on prononçait votre nom, Page, et non Pagès. Et je me suis surprise à rêver. Je me disais, s'appeler Page, quand on étudie la littérature, c'est quand même la classe. Et j'ai même imaginé m'appeler Clara Paragraphe. Je me suis entendue dire, une émission avec Constance Préface, Liliane Virgule et Élodie de la note de bas de page. Bon, vous vous appelez Alain Pagès, et c'est bien aussi. Alors Alain Pagès, est-ce que Thérèse Raquin tient une place particulière dans votre cœur et pourquoi ?
Eh bien, si vous m'aviez posé la question... spontanément, j'aurais dit non, peut-être, car j'aurais choisi ou Gervaise, la Gervaise de l'Assommoir, ou même Denise, la Denise de Bonheur des Dames. Mais finalement, puisque vous me poussez à aimer Thérèse, je vais vous dire que oui, je la trouve extraordinaire, car après tout, elle combine la fragilité de Gervaise, la force de Denise, et aussi, on peut le dire, de celle qui est l'héroïne la plus célèbre de Zola, Nana. Elle est la passionnée comme les nanas, et donc d'une certaine façon, Thérèse, au début du cycle des Rougon-Macquart, ou juste avant, dans ce seuil de l'œuvre, dans ce roman qui paraît en 1867, comme vous l'avez rappelé, eh bien Thérèse, elle les réunit toutes, elle les combine, et donc elle les annonce. Et de ce point de vue-là, elle est extraordinaire.
Femme complète. Est-ce que vous avez une scène préférée ? Est-ce que vous nous la liriez ?
Alors oui, plusieurs finalement, mais on peut imaginer ce moment extraordinaire où Laurent découvre à la morgue le cadavre de Camille après le meurtre.
Alors Laurent étant l'amant et voilà. Camille le mari.
Voilà, et il est là à l'état de cadavre. Camille était ignoble. Il avait séjourné 15 jours dans l'eau, sa face paraissait encore ferme et rigide. Les traits s'étaient conservés, la peau avait seulement pris une teinte jaunâtre et boueuse. La tête maigre, osseuse, légèrement tuméfiée, grimaçait. Elle se penchait un peu, les cheveux collés aux tempes, les paupières levées, montrant le globe blafard des yeux. Les lèvres tordues, tirées vers un des coins de la bouche, avaient un ricanement atroce. Un bout de langue noirâtre apparaissait dans la blancheur des dents, cette tête, comme tannée et étirée, en gardant une apparence humaine, était restée plus effrayante de douleur et d'épouvante.
Oh, mais frissons, professeur, frissons! Moi, je me sens sous la douche comme dans Psychose, hein, personnellement. Est-ce que tout le monde autour de cette table a autant frissonné que moi, Constance?
Ah, moi, j'ai adoré. Je crois que c'est un de mes préférés de Zola. Tout le monde est atroce. Et comme moi, je viens de Picardie, ça me rappelle vraiment ma vie. Hein.
Liliane Roudière.
Alors moi, comme je suis, comme disait Balzac, hein, on n'est pas sur Balzac aujourd'hui, tout ce qui me touche me pénètre. Et alors donc moi, j'ai pas pu le prendre au second degré, c'est-à-dire que les descriptions que vous venez de faire, enfin tout m'a bouleversé. J'ai été assez mal à l'aise en fait. C'est très très cruel, quoi.
Élodie Emery.
Alors non. Là, j'ai vraiment pas du tout aimé. J'ai trouvé que c'était un supplice. Je sais pas pourquoi on s'impose des choses pareilles. Vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement pénible. Je suis désolée. Sans doute pour les mêmes raisons que Liliane, c'est que vraiment, j'ai été mal à chaque page et que vraiment, j'avais hâte que ça se termine.
Et vous, chère Clara? Ah, et ben moi, j'ai adoré. Ça me fait déjà un point commun avec le professeur Alain Pagès. Mais je trouve que c'est un personnage a priori biblique parce qu'on se dit elle a commis une faute et donc elle est punie pour ça. Et à partir de cette matière si biblique, justement, eh bien, Émile Zola, je trouve, en fait une femme qui va au bout de son désir. Il en fait une frondeuse. Pour moi, il en fait une anti-Emma Bovary. Est-ce que je me trompe, professeur?
Oui, c'est une anti-Emma Bovary. C'est-à-dire, elle lui ressemble quand même. Zola, rappelons-le, adore Flaubert, c'est son maître. Et donc, quand il écrit Thérèse Raquin, il pense évidemment à l'histoire de Madame Bovary, mais il sait aussi qu'il ne va pas la répéter. Et d'une certaine façon, il construit une anti-Emma Bovary. Alors, elles ont ce point commun qu'elles sont provinciales, qu'elles sont mariées à un mari faible. Elles ont aussi ce point commun qu'elles se suicident, toutes les deux, finalement. Mais la différence fondamentale, c'est que Thérèse, tout de suite, va vers son désir, vers Laurent. Ils font l'amour quasiment la première fois dès qu'ils se voient. Et ce qui est chez Emma, c'est-à-dire la question de la lecture, la question du sentiment, curieusement, chez Thérèse, viendra après. Zola le dit d'ailleurs, elle se met à lire après le meurtre. Et alors à ce moment-là, les lectures font que finalement, elle va trouver que cet amant n'est pas si extraordinaire que cela. Et ce Laurent, elle ne l'aura jamais finalement à cause des lectures.
Donc il y a les lectures qui lui ouvrent les yeux, alors que pour Emma Bovary, ça l'aveugle.
Voilà.
Voilà, exactement. Sans compter qu'il y a un petit poil asocial, petit poil un peu sauvage. Hein, de moi j'ai un faible, qu'est-ce que vous voulez professeur, pour les gens qu'on saisit pas tout de suite, les pas aimables, au sens littéral du terme. Je pense que j'aurais certainement chaviré pour Hannibal Lecter, ce genre de...
Et dans les deux cas, on est devant un romancier, Flaubert d'un côté, Zola de l'autre, qui veulent défendre des personnages qui leur sont très différents et qui vont s'identifier à elles.
J'ai parlé d'Hannibal Lecter, hein, donc je me tourne vers Constance, tout est absolument logique. Alors votre truc à vous, Constance, c'est la dissection, on n'est pas très loin du cadavre de Camille, mais la dissection de la première phrase d'un livre. Et la première phrase, c'est quelque chose la première phrase.
Ça ne s'oublie pas quand c'est la première fois.
C'était juste pour le plaisir de mettre Emmanuel, première fois 1986, chef-d'œuvre, pardon, à la playlist de France Inter, mais voilà, c'est un petit plaisir. Alors, on y va, Constance.
Au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de la Seine. Prenez la première à droite, direction autoroute A1, en utilisant les deux voies de gauche. Attention, police signalée sur votre trajet. Si le GPS et Waze n'étaient pas apparus bien après la fin de l'écriture de Thérèse Raquin, j'aurais pu dire « Mais dis donc, Émile, faut pas te gêner, ta première phrase de roman c'est plus de la géolocalisation que de la littérature. » Mais en me penchant un petit peu plus près sur cette première phrase, je me suis rendu compte que se pencher sur une première phrase de Zola, ça pouvait donner le vertige même lorsqu'on habite au rez-de-chaussée. Quand j'ai relu donc cette première phrase une deuxième fois, au bout de la rue Guénégaud, lorsqu'on vient des quais, on trouve le passage du Pont Neuf, une sorte de corridor étroit et sombre qui va de la rue Mazarine à la rue de la Seine. J'ai immédiatement quitté le sentiment du guidage satellite et je suis arrivée cette fois à la ferme impression de lire une petite annonce immobilière glauquissime du style « L'agence Xavier Dupont de Ligonnès est-ce qui essaierait de me vendre un bien avec une description qui se voudrait neutre ?» Mais si on suit un petit peu les infos, on sent bien que derrière le topo commercial, il y a un léger passive, genre gros travaux à prévoir, vices et personnes décédées potentiellement cachées. Tout est là, déjà, bien glauque et humide, en train de macérer dès cette première phrase. Le bout de la rue, c'est la fin d'une route. Ça pue le cul-de-sac à plein nez, cette histoire, l'impossibilité de faire demi-tour. On les entend déjà hurler, les mauvaises décisions irréversibles. Et au bout de la rue, on trouve le passage du Pont-Neuf. On le trouve. Ça veut dire qu'il faut le chercher. On ne tombe pas dessus par hasard. Et qu'est-ce qu'on trouve si l'on cherche? Une sorte de corridor étroit et sombre. Ambiance! C'est tellement trop mignon comme endroit que même la lumière ne veut pas y pénétrer. Ça donne envie d'y aller pour se promener la nuit, toute seule en mini-short et en roulant du cul, dis donc. Et comme ça fout les chocottes, et ben moi j'ai tellement les chocottes rien qu'en lisant cette première phrase que j'ai les fesses qui font bravo, tellement je tremble. Et en parlant de fesses, une sorte de corridor étroit et sombre. Ça fleure quand même un petit peu la connotation sexuelle habilement déguisée, Émile. Il va y avoir du cul sale, du malsain, il va y avoir de la bouillie de morpion, il va y avoir du vacancier qui fréquente la fistinière, ça va couiner et bouffer du placo au-dessus de la mercerie, je vous le dis. Et si t'espérais, il y aura une belle histoire d'amour fraîche et contemplative qui serre le cœur, bah tu t'es gouré de bouquins, des campes, casse-toi, va lire Proust, doucereux, et laisse-nous entre dur à cuire. Ici, on va en prendre plein la tronche, Zola, c'est du black metal, faut aimer la bestialité, le verre à moitié plein, les odeurs corporelles, les bruits de paix de fouf, parce que Zola, c'est la vraie vie. Eh ouais, et cerise sur le gâteau, pour cette fin de dissection de la première phrase, et dissection est un terme qui convient pile poil, parce que chaque mot est redoutablement aiguisé comme un scalpel de médecin légiste chez Zola, ce corridor va de la rue Mazarine à la rue de la Seine. Et c'est si pratique, la Seine, pour y jeter, par exemple, des petits cailloux ou des cadavres. Voilà, maintenant tu es prévenue, Thérèse Raquin, c'est de la bonne, c'est de la forte, alors tremble, lecteur, tremble !
Merci, Constance.
Professeur.
Oui, la Seine, elle est là, vous avez tout à fait raison. La Seine où le cadavre de ce malheureux Camille sera jeté. Mais ce passage du Pont-Neuf, si on le mettait sur un GPS d'aujourd'hui, on ne le trouverait pas, hein, car il a disparu. Il existait à l'époque de Zola. C'est un passage qui était assez connu, très étroit, glauque, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Une rue des boutiques obscures, c'est d'ailleurs une phrase qu'on va trouver un peu plus loin et qui fait penser à ce roman qu'écrira plus tard Patrick Modiano. Donc c'est un passage qui existait au 19e siècle, qui n'existe plus aujourd'hui. On peut chercher dans Paris, on ne trouvera pas, car il était remplacé par une rue qu'on a percée à la place. Mais il est un décor extraordinaire pour ce roman que Zola a construit, un décor où en effet on verra derrière des vitrines, enfermées dans cette air malsain, à la fois la vieille Madame Raquin et puis cette jeune femme qui s'appelle Thérèse. Effectivement, le lieu nous dit déjà tout ce que ces personnages vont faire et ils n'en sortiront jamais, sauf quelquefois pour aller un peu sur les quais, mais pas plus.
Les criminels sont souvent les rois de l'esbrouffe, des virtuoses du mensonge. Hein. On l'a vu avec Thérèse Raquin et son amant Laurent. D'ailleurs, Thérèse qui arrive à faire croire assez longtemps hein, qu'elle est fidèle, que son mari est mort de façon accidentelle. Qui dit esbrouffe dit ruse. Et c'est là qu'intervient Élodie Emery, la reine de l'illusion. Alors son truc à elle, ce sont les dîners mondains. Et sa vraie question, c'est, dans un dîner en ville, comment faire croire qu'on a lu Thérèse Raquin ?
Eh oui, vous n'avez pas lu Thérèse Raquin, mais vous avez une vie mondaine. Vous ne savez pas comment concilier les deux ? C'est là que j'interviens. Cela dit, je serais tentée de dire que si la conversation glisse sur Thérèse Raquin pendant l'une de vos soirées, il faut changer d'amis, dans un délai assez bref. En attendant, j'ai fait le boulot. Je ne suis pas femme à livrer des recettes que je n'ai pas testées. Donc j'ai moi-même lancé la conversation sur Thérèse Raquin en de multiples occasions mondaines. Et je vous livre mes conclusions. D'abord, les gens l'ont lu. Beaucoup de gens l'ont lu, ce qui rendra, votre imposture périlleuse, mais aussi un petit peu excitante. Attention, les gens l'ont lu et ils s'en souviennent. Pourquoi ils s'en souviennent ? Parce qu'ils en sont encore traumatisés, 30 ans plus tard. Attendez-vous à des « Thérèse Raquin !» À des yeux qui se perdent dans le vague, à des gens qui se mettent dans un coin de la pièce et qui se mettent à se balancer. Thérèse Raquin, c'est un livre d'horreur dont les images restent gravées dans le cerveau de manière indélébile. Alors pour faire semblant que vous l'avez lu, je vous ai fait une compilation des scènes qui ont occasionné le plus de syndromes post-traumatiques. Alors, numéro 1 sur le podium, la description du cadavre de Camille, le mari assassiné. Le professeur Pagès en a lu un passage, mais comme c'est très long, il y a de quoi faire. Donc ça fait 15 jours qu'il est dans l'eau, le corps semblait un tas de chair dissoute, il avait souffert souffert horriblement. On sentait que les bras ne tenaient plus. Les clavicules perçaient la peau des épaules. Je saute un peu, c'est l'heure du goûter. Tout le torse pourrissait. Les jambes plus fermes s'allongeaient, plaquées de taches immondes. Les pieds tombaient, etc., etc. Deuxième sur le podium, la cicatrice de Laurent.
Ah.
Quand Laurent assassine Camille, hein, au moment où il le pousse de la barque pour qu'il se noie, Camille lui mord le cou assez sévèrement pour qu'il en garde une cicatrice boursouflée, laquelle, dans le reste du livre, sera vive, sans pourpre et palpite. Elle le démange, elle le brûle. Laurent songe à la couper au rasoir. Thérèse se dit qu'elle pourrait l'arracher avec les dents.
Oh.
Ils ont de supers idées. Et enfin, numéro 1 des scènes traumatisantes, la maman du noyé, Madame Raquin, mère, paralysée, muette, essaye de révéler au crétin qui joue au domino dans son salon que son fils a été assassiné. Au prix d'efforts surhumains, elle arrive à faire bouger sa main pour tracer des mots sur la table. Thérèse et Laurent, les assassins, sont pétrifiés évidemment. Et de leur côté, les convives essayent de deviner ce qu'elle écrit. Je cite « Hé, voyez donc Thérèse !» cria Michaud. « Voilà Madame Raquin qui agite les doigts. Elle désire sans doute quelque chose. »« Par Dieu, oui !» dit Grivet. « Elle désire quelque chose ? Oh, nous nous comprenons bien tous les deux. Elle veut jouer au domino, hein ? N'est-ce pas, chère dame ?» Alors cette scène, c'est le cauchemar qu'on a tous fait quand on était enfant, quand on rêve qu'on est pris dans des sables mouvants, qu'on peut pas crier, que ça sort pas, on s'enfonce, on s'en fout, c'est tout ce qu'on arrive à émettre comme son, c'est comme ça. Et en face, t'as tes parents sur la berge qui te font coucou, coucou, avec de grands sourires, comme c'est si t'étais vrai. Sur un manège alors que t'es en train de crever la bouche ouverte. Vous voyez ce cauchemar ? Eh bien voilà, c'est ça qui arrive à Madame Raquin. Alors comme ça, vous pourrez en parler deux minutes et puis lancer la conversation sur autre chose, hein, le pass sanitaire, le film Shining, enfin n'importe quoi d'un peu plus gai, pour sauver votre soirée.
Merci Élodie Emery. Professeur Pagès, c'est vrai que Zola, il écrit des scènes à la limite du fantastique, il y a parfois ça résonne comme le hors-là de Maupassant. C'est toute cette école du surnaturel du 19e siècle.
Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est, vous l'avez cité, l'histoire de la cicatrice, là, ce bout de chair qui est arraché au cou de Laurent. Et donc, ça va générer des hallucinations qui font que ce roman, dans sa deuxième partie, il aurait pu être un roman policier, au fond, ce roman, mais il n'est pas un roman policier. Les imbéciles dont vous parlez ne comprennent rien et ne vont jamais dénoncer les coupables. Donc, ça devient un roman de l'hallucination, du revenant, ce que fera plus tard Maupassant avec le Horla. Et je trouve extraordinaire, effectivement, cette histoire de ce lambeau de chair qui est transporté dans la bouche de Laurent. Parmi les adaptations cinématographiques de Thérèse Raquin, il y en a une assez bizarre, faite par un cinéaste coréen qui s'appelle Park Chan-wook. Le film est sorti en 2009, il a été primé au Festival de Cannes, et c'est un film de vampire, un film d'horreur.
C'est-à-dire que qui a adapté Thérèse Raquin.
Voilà, qui reprend en réalité l'intrigue de Thérèse Raquin et qui raconte l'histoire d'un homme qui est un vampire, qui adore le sang. Donc voilà peut-être l'adaptation qui correspond à ce sentiment d'horreur que vous évoquez, la plus extraordinaire de Thérèse Raquin, à côté de l'autre adaptation, qui est peut-être celle qu'on a en mémoire et qui fait que les gens se souviennent aussi de Thérèse Raquin, celle de Marcel Carnet avec Simone Signoret, éblouissante en Thérèse Raquin.
Alors si Thérèse Raquin avait parlé coréen, hein, ou anglais, elle aurait dit « You know I'm no good ». Elle l'a pas fait, mais Amy Winehouse, si.
Livre et châtiment.
Aïe ! Ah, aussi très bien, très dramatique, qui est Thérèse Raquin.
Ah, Thérèse Raquin.
Oh, très bien, Thérèse Raquin.
Et vous pensez ?
J'étais éprise de Thérèse Raquin, mais oui.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Alors, c'était le mix improbable de Colette, l'écrivain Colette qu'on a entendu, et de Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. Vous écoutez Livre et Châtiment, au cas où vous auriez douté, l'émission... Posté d'ailleurs une poubelle dans une impasse à minuit, guettant le pas léger et insouciant du classique littéraire, ronronnant de sa propre gloire, et paf, on lui tombe dessus. Thérèse Raquin d'Émile Zola est notre malheureuse victime de ce dimanche. Ma complice brigande, c'est Constance.
Oui, absolument, je suis là. Et il y a aussi dans notre équipe maléfique, il y a Liliane Roudière, Elodie Emery et le professeur Alain Pagès.
Alors Constance, puisque vous avez le micro, eh bien gardez-le. Car vous vous êtes demandé à quoi ressemblerait la bande-annonce de Thérèse Raquin si ce roman avait une bande-annonce.
Bonjour petite fille, comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Thérèse, madame. Je suis ta petite nièce abandonnée.
Oh, allez, je t'adopte, Thérèse. Viens que je te présente mon fils Camille. Il est très malade, tu sais.
Ah, mais il pue le suppositoire. Non, je veux pas me coucher sous cette couette. Ça sent le vieux pied d'hôpital. J'ai pas sommeil. Non, je veux pas prendre ce sirop. Je suis pas malade.
Chut, couche-toi. Et surtout, ne bouge pas, parce que tu pourrais le tuer. Une chanson douce que m'a chantée ma maman. Maintenant que tu es une femme, Thérèse, tu vas pouvoir épouser Camille, ton frère. Comme ça, tu sauras lui changer sa poche à caca. Ce sera tellement pratique et beau comme amour.
Oh mon Dieu, j'étouffe. Si seulement quelqu'un pouvait me sortir de ce cauchemar.
Bonjour, je m'appelle Laurent. Je suis un bourrin. J'ai deux passions dans la vie, la peinture et les culs.
Oh, Laurent, tire-moi comme un âne tire sa carriole. Oh, je t'aime, tu peins mal. Mais qu'est-ce que tu sais y faire avec ton gros pinceau? Ah, oh, si seulement mon mari disparaissait, s'il mourait par inadvertance, on pourrait faire gousi-gousa tout le temps.
Maman, je vais faire du pédalo avec Laurent et Thérèse. Oh la vache, elle est froide. Et comme je sais pas nager, ce serait trop bête si je tombais à l'eau, car personne ne m'entendrait crier ici. Oh, on m'avait poussé. Et je vais pas mouiller la nuque, je me noie.
Enfin tranquille, on va pouvoir faire gousi gousa.
Attention Thérèse, derrière toi il y a un fantôme tout mouillé, tout moisi.
Bon, c'est épouvantable. Si cette émission est écoutée par les familles qui rentrent de week-end dans une voiture à 17h. Professeur, tout va bien ?
Je voudrais rassurer ces familles parce qu'en fait, Zola ne dit rien. Par exemple, le mariage que vous évoquez entre Camille, Camomille peut-être, hein, et Thérèse, c'est simple. Il dit, ce soir-là, Thérèse, au lieu d'entrer dans la porte de sa chambre, entra dans la porte de la chambre de Camille. Et puis le lendemain, elle ressort avec le même visage impénétrable que celui qu'elle avait la veille. Voilà ce qui s'est passé, rien. Donc à nous de deviner. Mais au fond, le roman n'est pas aussi effrayant que ce que vous dites.
Oh si, c'est parce que j'ai de l'imagination.
Oui, mais c'est le dit, Elodie Emery, elle trouve que le roman est décidément effrayant, elle a eu du mal. Il n'y a que vous et moi, professeur, on a aimé.
Mais non, moi j'ai dit que j'avais adoré.
Oui, et Constance aussi, on l'avait oublié, Constance.
Non, mais on va parler du remords, et là, voilà, il va être puni.
Absolument. Mais alors, figurez-vous qu'avant de parler du remords, il faut expliquer un peu la démarche de Liliane Roudière, qui est la sienne, c'est qu'on peut lire un classique littéraire avec le même regard, finalement, qu'un juge d'instruction lisant un procès-verbal, une lecture précise, pragmatique, premier degré, et c'est précisément cette lecture-là, celle de Liliane Roudière.
J'avais prévu de commencer par « Si j'ai bien lu, l'héroïne de ce livre, Thérèse Raquin, est une femme qui tue un homme et regrette son geste. » Elle le regrette, mais à un point épouvantable. Ça la met dans un état, et moi j'ai envie de lui dire « Bah écoute, si tu fais quelque chose et que tu rumines ensuite, fallait pas le faire. » Et il paraît qu'on appelle ça le remords. Pour moi, c'est un mystère. J'ai eu envie de demander à une spécialiste, une journaliste judiciaire, documentariste, et qui a présenté pendant presque 10 ans la fameuse émission. Faites entrer l'accusé. Bonjour Frédéric Lantieri.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, donc, je m'adresse à vous. Vous avez fréquenté de loin des centaines de criminels, des Thérèse et des Laurent, des assassins qui crèvent de remords. Est-ce qu'il y en a beaucoup ?
Non.
Ah, oh, dommage.
En fait, je suis désolée pour vous. En fait, le remords, ils vont, bien évidemment, ils vont l'exprimer devant la justice, hein, parce que ça permet d'avoir une peine un peu moins longue. Vous avez les regrets en bandoulière, comme ça, vous pouvez peut-être arriver à émouvoir un peu les jurés. Mais surtout, ça permet surtout de rejeter la faute sur l'autre. C'est lui qui m'a obligé, moi je voulais pas, c'est elle qui a tout imaginé, moi je voulais pas, etc., etc. Vous voyez, c'est surtout ça, le remords, c'est un bon prétexte pour accuser celui avec lequel on a commis, ou celle avec lequel on a commis le crime.
Et dans ce livre, Thérèse et Laurent, à même hauteur, ressentent des remords. Est-ce que vous avez l'impression que, d'habitude, ce sont les femmes qui ont plus de remords ?
Non, pas du tout.
C'est pas sexuel,
c'est
remords,
pas genré, ouais. D'accord.
Je vois pas pourquoi elles auraient plus de remords. D'abord, en plus, souvent, leurs crimes sont plus prémédités, parce qu'elles, quand même, n'ont pas vraiment la force physique. Elles sont forcément obligées d'avoir un peu prémédité leurs crimes. Donc, en général, souvent, elles sont complices, d'ailleurs. Ça, c'est quelquefois à deux, plus souvent qu'un homme quand il le fait tout seul. Enfin, un homme peut peut-être le faire plus facilement tout seul. Et puis, quand on prémédite, donc, on a eu le poison, on a l'arme, on a le couteau, enfin, bref. Comme physiquement, elles sont en situation un peu défavorable, souvent, par rapport aux hommes, quand elles commettent un crime, bah, il faut quand même avoir pensé à certains détails. Donc, c'est prémédité. Donc, quand c'est prémédité, souvent... Le remords, il vient plus difficilement quand même. Hein. Et puis quand même, la justice a une grande vertu. C'est que quand vous êtes condamné, vous payez. Ben, comme vous payez, vous expiez. Donc après, pourquoi avoir de remords en plus ? Déjà, vous payez, ça suffit quand même, non ? Vous ne croyez pas ?
Ah si, je trouve ça très pertinent. Tout d'un coup, ça me fait penser. Thérèse aussi des hallucinations. Elle voit son mari mort, le sang, le touche. Est-ce que vous pensez que le remords peut prendre vraiment une forme aussi sensorielle ?
Ben oui, enfin, on sait bien que toutes les pathologies mentales, il y a des hallucinations auditives, sensorielles, même au niveau du goût, de l'odorat, enfin voilà, oui, bien sûr. L'âme humaine est capable de créer des choses tout à fait formidables. Donc, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'hallucinations olfactives.
Mais ça n'est peut-être pas dû au remords, alors ?
C'est
non.
Non. Non, c'est que quelquefois quand on tue, c'est qu'on est déjà très border et que l'acte fait basculer vraiment dans une maladie mentale.
D'accord. Merci Frédéric Lantieri.
Je vous en prie.
Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Et merci Liliane Roudière pour cette interview éclairante. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Alain Pagès ? Est-ce que Thérèse, elle est dans la stratégie ? Le remords est pas une stratégie. Dans la pathologie mentale, comme l'a dit Frédéric Lantieri ?
Alors oui, tous les deux ont des hallucinations. Zola choisit que ses amants ne soient pas atteints par la justice. Donc le remords va venir comme une sorte de châtiment interne. C'est ça qui est la force du roman. Alors chez Laurent, il est fort, il est très fort. Zola d'ailleurs le décrit très bien, il parle de remords physiques. C'est un remords qui bloque le corps. Laurent ne peut plus rien faire, il peut plus faire l'amour, quoi que ce soit. Il voit ce revenant qui est là et qui l'empêche de penser. Quant à Thérèse, eh bien, elle joue la comédie du remords. Elle pense à un moment, par une sorte de folie, que la vieille Madame Raquin, qui ne peut plus parler, qui est paralysée, va la pardonner. Et donc, elle essaie de se faire pardonner. Évidemment, ça ne va pas marcher. Donc, il y a d'une part cette comédie du remords, d'autre part ce remords physique, et Zola analyse ces corps qui sont bloqués. C'est au fond une vision moderne, une vision scientifique. On est à l'époque où Charcot bientôt va faire ses cours à la Salpêtrière. On est tout près d'ailleurs de ce que découvrira Freud lui-même, élève de Charcot. Et Zola, d'une façon géniale, entrevoit cette question du corps qui est dominé par un inconscient.
Zola visionnaire. Alors un roman, professeur, c'est aussi un peu comme la vie d'un serial killer, hein, au sens où il y a des passages qu'on peut sauter. Personne ne s'attarde sur la carrière médicale de Marcel Petiot. Alors, quel passage, Élodie Emery, peut-on sauter dans Thérèse Raquin ?
Alors, cette fois, il ne s'agit pas de passages vraiment qu'on peut sauter, il s'agit de maladresse chez Zola. Gros problème de répétition. Chez Émile Zola, il use et abuse du champ lexical de l'affreux, du dégoûtant, du gore même. Un exemple, le mot « sang » apparaît 74 fois, c'est-à-dire à presque une page sur quatre. Laurent avait la vie sanguine d'un fils de paysan. Plus loin, Laurent jouissait de la vie plus par le sang que par les nerfs. Jusqu'à 5 fois sur une seule page, le mot sang, il martèle Émile, il tape sur la tête de son lecteur en lui répétant les mêmes mots à l'infini. Nerf, brut, ignoble, boum, boum, boum.
Pas du tout.
Si. Mais le pire, c'est le mot roide. Il se repère parce qu'on l'utilise plus. Hein. Aujourd'hui, on dirait raide. Et tout le monde chez Zola est sujet au roidissement. Alors Thérèse, d'abord, la vérité était qu'elle avait besoin de marcher, d'agir, de briser ses membres roidis. Camille roidit dans les eaux troubles de la Seine, Laurent roidit, la mère Raquin sévèrement roidit, et même le chat qui a le poil hérissé et les pattes roidies. Il y en a partout jusqu'à la dernière phrase du livre, je la lis pas, je sais que vous le ferez tout à l'heure. Alors je me suis dit, pas de jugement hâtif, c'est peut-être un tic de langage, ça arrive au meilleur. Peut-être que c'était un mot à la mode, comme de nos jours bienveillant ou présentiel. Peut-être qu'à l'époque, on lisait dans les magazines féminins « Cheveux trop roides », notre top 10 des fers à boucler. Peut-être qu'en cours de yoga, on disait « Oh, je suis roidie, j'arrive plus à toucher mes pieds ». Peut-être aussi qu'on disait « Il est comment Stendhal, il est sympa ?»« Ouais, il est sympa, il est un peu roide, mais il est sympa ». Alors, pour vérifier ma thèse, je suis allée compter les roides dans Madame Bovary. Il y en a deux. Donc c'est pas ça. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que l'éditeur qui était censé relire Zola était en RTT ? Est-ce que Émile Zola s'est endormi sur la fonction copier-coller de son clavier ? En tout cas, moi je n'ai lu que ça.
Oh, Élodie Emery, to, mauvaise foi, mauvaise foi. Alors, cela dit, elle parlait de roide, professeur Alain Pagès, et c'est vrai que tout dans le roman de Émile Zola est dur, implacable, il y a des images crues, mais pour contrebalancer cette roideur, Zola instille quand même du liquide, il y a du mou, il y a du poisseux, il y a du sang, vous l'avez dit, mais il y a la transpiration, il y a de la peau. Est-ce que c'est ça, ce fameux roman organique? Il avait quelque chose avec ça, Émile Zola.
Oui, c'est un style assez simple, assez dur, brutal. Ce sont des pages qui éclatent comme ça et qui produisent une sensation forte. On n'est pas encore dans le Zola qui viendra plus tard, celui beaucoup plus lyrique des Rougon-Macquart, où d'ailleurs il aura une gamme, il pourra varier de roman en roman. Là, on est dans une sorte de roman expérimental. Je crois que la formule s'applique déjà à Thérèse Raquin, où ce qui intéresse Zola, c'est encore une fois de voir ses personnages, de les voir pris dans le déterminisme atroce dans lequel il les place et de les faire avancer. Mais c'est bien cette remarque que vous avez faite sur roide, raide. C'est vrai qu'il y a comme ça, dans cette langue du 19e siècle, des mots qu'on ne prononce plus, des mots qu'on a aujourd'hui oubliés, mais elle est là pour nous les rappeler. C'est un peu le passé de notre langue. Roide, c'était juste raide avant roide, voilà.
Mais c'est après, très bien. Moi, je n'ai pas aucun problème avec ça. J'ai un problème avec la répétition. Il y a eu tellement de roides, et je vous assure, une fois que vous avez vu ça, vous ne voyez plus que ça. Je les ai entourés sur mon édition. Je peux vous montrer. C'est effrayant. Alors, à la fin, je faisais plus que ça. J'entourais. Ah ouais. J'ai entouré nerf, sang et roide. Et je suis devenue complètement marteau. Je vais vous montrer mon édition de Thérèse Raquin.
Mais dans la lecture, on les oublie, ces roides.
Ben, je suis d'accord. Vous avez la réaction de quelqu'un qui n'est plus amoureuse de quelqu'un d'autre et qui ne voit que ses défauts en répétition. Well, you just think that I'm some great survivor. And you just build upon the lies that carry you. Well, I don't even talk that way. See, I wanted you to stay and show me the world's a better place. And as we crawl to find our way, we even take the shape of something else. So
Some people ought to see, some people ought to hear. Well, if it's gonna be that way, then the crowd that calls your name can cast me out. You think that I'm just a sunset survivor? You think that I'm just sunset survivor? I'm afraid that the weight of the world is catching up with you.
Survivor de Nathaniel Ratcliffe.
France Inter, Livre et Châtiment, Clara Dupont-Monod.
Dans le roman, Thérèse Raquin est une criminelle en puissance qui finit d'ailleurs par accomplir un crime. J'entends par là qui finit par donner la mort après préméditation. C'est ça qu'on peut dire d'un crime, je crois. Alors que dans le film, elle est une meurtrière, ou plutôt la complice d'un meurtre qui n'a pas été prémédité et qui est commis sous le... comment dirais-je, sous la puissance de la passion.
C'est flippant.
Antoine, t'es complètement malade. Tu vas pas tuer quelqu'un pour une histoire de cure.
Peace and love.
Oui, bon, c'était le mix de Simone Signoret en 1953, suivi de Mes meilleurs copains de Jean-Marie Poiré. Vous écoutez Livre et Châtiment, une émission qui n'a peur de rien, ni des alibis foireux, ni des casiers judiciaires chargés. Elle frappe sans crainte des représailles. Avec moi, la plus jolie et la plus inquiétante des suspectes, mon Kaiser Sosé à moi, Constance. Et avec nous, Constance.
Est-ce que je peux faire le tour de table avec une voix de méchant dessin animé?
Alors non.
D'accord, ok. Alors notre bande organisée du mal... Parce que sinon, je vais faire notre bande organisée du mal.
Vous le faites quand même.
Je le fais quand même. Liliane Roudière, Élodie Hébry et Alain Pagès.
Voilà, c'était le tour de table de Constance.
C'est hein. Du talent.
Ah, voilà. Ah, mais commissaire Alain Pagès, je le vois dans vos yeux. Je suis d'accord avec vous. Il faut donner une chance à notre criminelle, Thérèse Raquin. Elle a le droit à la parole. Je sais, oui, je la débaillonne. C'est le moment de l'interview de Thérèse Raquin. Thérèse! On aurait pu se voir dans votre mercerie. Pourquoi vous m'avez donné rendez-vous dans un bois isolé à 23h57?
Parce que cette forêt ressemble à mon âme, noire et bruyante. Je ne dors plus, voyez-vous, à cause du spectre de Camille, mon frère adoptif, cousin et mari, noyé en décomposition qui me hante chaque nuit. Il est là, derrière vous, il me surveille!
Vous m'avez fait peur. Mais Thérèse, on se croirait dans l'exorciste.
Les gens meurent parfois, surtout quand on les tue. Arrête le plic-ploc des gouttes d'eau croupie sur mon visage. Camille, par pitié!
Mais enfin, Thérèse, c'est une buse qui a uriné sur vous. Enfin, Thérèse, restez focus! Vous êtes quand même l'héroïne d'un roman éponyme.
Pardon, mais mon prénom à moi, c'est pas éponyme, c'est Thérèse. Et puis, si on fait un petit bilan de ma vie, ma mère meurt quand j'ai 2 ans, mon père m'abandonne comme une vieille capote, ma tante m'adopte et me marie à un déchet qui est aussi mon frère adoptif, je me fais à moitié violer par un copain de mon mari, je le prends pour amant parce que, entre abandon, maltraitance, inceste et odeur de médicaments, j'accueille cette relation comme de l'espoir.
Non, c'est sûr que vu comme ça, le tableau est terrible.
Ah bah, parlez pas de tableau. Mon abruti d'amant a cru bon d'accrocher au-dessus de notre lit adultère un portrait de mon mari. On nique devant une croûte cauchemardesque. L'enfer, et c'est pas terminé. Jusque-là, c'était glauque. Mais on pouvait se dire, bon, ça pourrait être du Balzac, éventuellement. Mais quand je découvre le cul avec mon amant, je lui souffle entre 2 brouettes espagnoles l'idée de tuer mon mari. Et ce con le fait!
Attention, Thérèse, vous marchez sur un blaireau. Dites, le pauvre. Dites, le meurtre, c'est votre idée au départ, quand même. Hein.
Oui, mais moi, j'ai dit ça comme ça, au cœur de la passion. Et l'autre bas du front, il est tout propre, premier degré. Donc, le voilà en train de noyer Camille dans la Seine comme un petit chat dans les water. Enfin, peinard, vous allez me dire. Mais pas du tout, c'est du Zola, je vous rappelle. Donc, une fois mort, Camille se met à nous hanter, tout gonflé, tout moisi. Donc, plus de sommeil, plus de sexe. Mon amant me fout sur la gueule. Il bute le chat. Ma belle-mère fait un AVC. Et tout est bien qui finit bien. Ben oui, on se termine à deux au poison, sous les yeux de la vieille. vieille paralysée. Génial.
Reposez ce blaireau, c'est pas une écharpe. Là, voilà. Vous noircissez un peu le trait, hein. Oui, 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 c'est ça, vous avez raison. Bah, ça pourrait être pire. J'aurais pu crever dans Germinal sous un coup de grisou, asphyxié, carbonisé, vaporisé. Mais tout baigne. Tout baigne. Comme Camille, tout baigne. Chez Zola, on a des vies atroces, mais on a de l'humour. Camille, arrête de me vomir de l'eau dans le cou.
Non, mais non, Thérèse, c'est le blaireau qui bave.
Voilà, Alain Pagès, je n'ai pas de questions, sauf juste des excuses, en fait, à vous présenter.
En réalité, c'est la scène du meurtre que vous évoquez.
Voilà.
Et c'est vrai que on vient d'entendre Simone Signoret, extraordinaire, hein, dans Thérèse, mais le film de Carnet ne répète pas du tout le roman de Zola. Chez Zola, le meurtre se fait dans une partie de campagne à Saint-Ouen, et Thérèse est spectatrice. Bien sûr, elle accompagne Laurent, et d'ailleurs, ça se passe très bien. Laurent combine les choses d'une façon assez extraordinaire, comme dans un roman policier, avec des canotiers qui sont là et qui font plus tard, qui vont témoigner en sa faveur. Chez Carnet, c'est différent, c'est dans un train que ça se passe, le mari est jeté sur la voie, donc l'histoire est différente, de telle sorte que le film de Carnet est une merveilleuse adaptation, je crois, du roman de Zola pour l'atmosphère. On est à Lyon, peu importe, mais c'est la même chose que dans le passage du Pont-Neuf de Paris. En revanche, la deuxième moitié est différente, car les amants sont soumis à un chantage, ils y cèdent, et finalement ils seront à la fin pris par la justice. Donc Carnet adapte l'atmosphère. Le personnage de Simone Signoret, celui de Ralph Vallon, qui est l'amant, sont des personnages très convaincants, mais l'histoire n'aboutit pas à ce que Zola avait voulu créer, c'est-à-dire ce remords interne qui rend les personnages prisonniers et qui les conduit à ce suicide mutuel qui est la fin, quoi.
Donc on n'aurait pas pu faire cette fausse interview si on avait pris le film comme sujet de cette émission. Alors on se focalise sur Thérèse Raquin, hein, mais c'est quand même oublié que les personnages du roman sont aussi secondaires et que le secondaire est primordial. Bah oui, mais que serait Al Capone sans son chapeau? Eh ben, un criminel sans chapeau. Et ça perd quand même beaucoup d'intérêt. C'est pourquoi, Liliane Roudière, vous mettez en lumière un personnage en arrière-plan du roman de Thérèse Raquin.
Le personnage secondaire qui est primordial, c'est Madame Raquin, la mère de Camille et la mère adoptive de sa nièce, Thérèse. Madame Raquin est une mère poule, c'est acté.
Ah bon, c'est normal. C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère est au bord du gaz.
Maman.
Mais contrairement à Marthe Villalonga, c'est une mère poule ambiguë. Elle a sa part de responsabilité dans le naufrage de la famille Raquin. Avec Madame Raquin, Zola développe le concept de mère abusive. La preuve. Quand l'enfant Camille est à l'agonie, Madame Raquin, elle a la forme. Elle aime bien que Camille soit souffreteux. Elle l'élève comme un moribond. C'est écrit comme ça. Et elle se sent vivre. Je cite, « Arrêté dans sa croissance, il resta petit et malingre. Sa mère l'aimait davantage pour cette faiblesse qui le pliait. » Il est terrible ce portrait de la mère. On se focalise toujours sur la noirceur de Thérèse, mais celle de la mère est presque aussi effrayante. Cette veuve organise une dépendance autour d'elle. Sa vie a un sens, elle mène alors, entre guillemets, une existence de paix et de bonheur tranquille. Alors là, on n'est pas loin du syndrome de Munchausen. Quand la mère provoque ou entretient une pathologie chez son enfant pour être remarquée. Comble de la cruauté, Madame Raquin utilise Thérèse comme un médicament. Un enfant réconfort pour Camille. La gosse pète le feu, mais elle l'oblige à vivre au rythme du malade. Faire silence, boire les mêmes tisanes, dormir dans son lit pour le rassurer. Donc, si l'on regarde comment Madame Raquin a traité Thérèse, on ne voit plus la meurtrière de la même façon. Elle a une circonstance atténuante, celle d'avoir reçu une éducation débilitante. Thérèse n'était qu'un doliprane. C'est Madame Raquin qui est la responsable de l'enfance réprimée de Thérèse. Ultime intrusion toute puissante, la mère les marie. Alors là, c'est open bar. Non seulement c'est incestueux, mais en plus c'est regrouper ces deux objets de domination en un seul. Ils continuent de vivre ensemble. Madame Raquin est repue de bonheur avec ces deux choses sous les yeux. Ça s'appelle surveiller et non pas veiller sur. Tout juste si elle n'est pas près du lit pour s'assurer de la fabrication d'un enfant, qu'elle pourrait soigner plus tard par exemple. Si on résume, on ne voit d'abord de Madame Raquin que la figure idéalisée de la Pietà. Amour, bonté, abnégation totale. Or, on se rend compte que ce dévouement peut cacher un projet beaucoup plus égoïste et nocif. Moralité, nous dit Zola, méfiez-vous du dévouement maternel. Il peut faire des ravages.
Merci Liliane Roudière. Professeur Alain Pagès, êtes-vous d'accord avec cette interprétation de Madame Raquin?
Elle est importante, hein. La vieille Madame Raquin, que joue d'ailleurs Sylvie dans le film de Carnet avec ce regard extraordinaire, elle est importante et elle sera elle aussi punie, puisqu'à la fin elle est paralysée, paralysée des membres et même de la voix, elle ne peut plus parler. Et donc elle va tout découvrir, puisque les amants se disputant devant elle vont tout avouer. Elle a donc une fin atroce, hein, une fin atroce. Elle veut même se suicider et puis finalement elle aura sa vengeance, puisqu'ils finiront par se suicider devant elle. Et la vieille Madame Raquin, à la fin, elle est forte parce qu'elle sait. Elle sait, c'est elle, elle est la seule qui sait tout.
Je suce le sang de mon prochain. Je sème la mort et la tempête. Je suis la vengeance et la haine. Et je vais la. Je cherche le cœur de mon amant pour y planter mes dents. Je t'emporte dans une autre vie, là-haut sous les étoiles d'une autre galaxie. C'est que j'ai tort de te faire faire ce sacrifice. Rejoins-moi dans les abysses, tu deviendras mon complice. Car je suis le sang de mon prochain. Oh oui, je le suis le sang de mon prochain.
Le son de mon prochain du groupe La Femme.
France Inter. Livre et châtiment.
Vous écoutez Livre et châtiment, l'émission qui plaide coupable pour crime passionnel envers Thérèse Raquin d'Émile Zola. Quelle est la dernière ligne de ce roman? Alors, je vous la cite. Et pendant près de 12 heures, jusqu'au lendemain vers midi, Madame Raquin, roi des muettes, les contempla à ses pieds, ne pouvant se rassasier les yeux, les écrasant de regards lourds. Thérèse Raquin d'Émile Zola se termine comme ça. Mais, parce que nous avons l'esprit facétieux, nous vous proposons, chers éditeurs, de réécrire la fin de Thérèse Raquin sur 5 lignes maximum. 5 lignes que vous nous envoyez à livretchatiment@radiofrance.com au singulier, tout attaché, en minuscule. 5 lignes pour inventer ce que vous voulez. Ça peut se terminer sur Madame Raquin qui se lève de sa chaise et danse le mambo, seule ou avec Thérèse qui ne s'est pas suicidée, ou sur Thérèse qui chevauche Laurent, ou sur le chat qui a buté tout le monde. La meilleure fin sera lue à l'antenne la semaine prochaine par Constance. Alors dimanche dernier, on vous a proposé de réécrire la fin de Madame Bovary. Et un immense merci pour vos nombreuses réponses. On était très enthousiastes, on a tout lu. Certaines réponses étaient très belles, très drôles. Alors, souvent très longues, c'est 5 lignes maximum, souvenez-vous. Et le gagnant, ou la gagnante, Constance, est...
Alors la gagnante s'appelle Véronique Zerbib et je vais lire sa fin. Charles regarda une dernière fois la photo d'Emma avant de la ranger définitivement dans son secrétaire. Il eut un petit sourire narquois en pensant à ses longs cheveux noirs et ses ongles toujours faits. Quand elle entra, le crissement de sa jupe sur le velours parme du fauteuil le fit se retourner. Il s'avança vers elle et lui embrassa les mains et le cou. La tenant par la taille, il repoussa d'une caresse ses cheveux blonds et lui murmura à l'oreille « Toi, enfin !»
Vengeance pour joli. Charles Bovary qui a refait sa vie avec une blonde. Bravo Véronique, on applaudit Véronique, c'est super. Et pour tous ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas, c'est Thérèse Raquin maintenant qui est à l'assaut de votre imagination.
Au cours de notre heure de variété littéraire et historique, nos auditeurs pourront entendre les causeries suivantes. La part de l'humour dans les mémoires d'outre-tombe par M. Robert Lollon.
On dirait Constance. C'est peu vrai. La voix de Constance avec le même ton. Alors, tout comme une partie de Cluedo, hein, cette émission a une fin. C'est le colonel Moutarde qui vous parle. On termine avec nos précieux complices que sont les libraires. Et en partenariat avec Page, la revue des libraires, en vente bien sûr dans les librairies, nous demandons chaque semaine à un libraire la question la plus farfelue entendue dans sa boutique. Et cette semaine, c'est Emmanuel Georges de la librairie Goualarne à Lannion, dans les d'Armor. Petite info, Goualarne signifie vent de nord-ouest en breton. Allô Emmanuel ?
Oui, bonsoir.
Dégémer mat. Ça veut dire alors, ça veut dire bienvenue en breton, hein ?
Voilà. Des maths, Clara.
Voilà.
Des maths.
Je l'ai dit parce que Constance est picarde. Alors, Emmanuel, il faut lui ouvrir un peu l'esprit quand même. Quelle est la question la plus farfelue entendue dans votre magasin ?
Alors, une des anecdotes les plus farfelues qui m'a été donné de vivre, c'était cet hiver, donc imaginez un samedi soir, à quelques minutes de la fermeture de la librairie, un monsieur, l'air pas commode, entre et me dit direct « Je veux un roman sur le thème du couteau
oh. ». Alors, Thérèse Raquin, c'était pas loin.
Alors là, je me dis que ça va pas être facile. Face à mon visite désarroi, il enchaîne « Bah oui, un roman, le personnage principal, ce serait un couteau ». Alors j'étais un peu désarçonnée, je vous le cache pas, hein, je me suis gentiment dirigée vers le rayon polar et le monsieur d'enchaîner, ah non, surtout pas de roman policier. Bon,
il y avait le couteau de Jones Bow.
Oui, j'y ai pensé, justement,
oui.
Bravo.
Oui.
Et puis donc, après quelques instants encore de grande solitude, une rapide recherche sur une base de données, je trouve un roman que j'ai en stock qui pourrait convenir. Je pourrais vous donner la référence si ça vous intéresse. La langue et le couteau aux éditions Piquet. Bon, je préviens quand même le client. Je suis toujours honnête. J'en ai pas lu une ligne. J'ai l'impression qu'il est question d'un génial cuisinier chinois, etc., etc. Bon, voici mon monsieur tout content. Il passe à la caisse. Il me demande un paquet cadeau. Il me dit, ah, c'est mon copain qui va être ravi. Il vient juste de finir sa formation en coutellerie.
Oh, voilà. C'est génial.
Et moralité, je trouve qu'on se plie pas mal en quatre hein, pour répondre à toutes les demandes. Hein.
Ah, en tant que libraire, ah bah oui.
Oui.
Vous avez porte ouverte sur nos imaginaires en plus.
Ouais. Et puis je voulais vous rassurer, hein. Je me suis déjà renseignée sur les romans qui parlent de fourchette.
Merci Emmanuel, ou plutôt devrais-je dire Trugarez, excusez-moi, je parle le breton couramment, c'est mon côté druidique.
Bravo, Clara.
Merci.
Trugarez aussi.
Ah, on vous embrasse Emmanuel.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir. Merci professeur Alain Pagès. Merci. Merci Constance, Liliane Roudière, Élodie Emery. Livre et châtiment, c'est à la réalisation Stéphanie Texier, à la technique Tiffany Battistel, en chargée de programme Fanny Leroy. À dimanche prochain et n'oubliez pas de lire avec amour et sans pitié et on vous embrasse.